Simone et Beyoncé.
Simone et Beyoncé.
Mais c'est quoi le féminisme ?
Simone et Beyoncé.
Simone et Beyoncé. Simone et Beyoncé.
Sur Radio Campus Paris.
Sur Radio Campus Paris.
93.9.
93.9.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
Simone et Beyoncé, le féminisme en 2017.
Féminisme, c'est selon le Merriam-Webster Dictionary le mot le plus recherché sur Internet en cette année 2017. Mais aussi le thème de cette super émission que nous avons concoctée avec amour et bienveillance dans le cadre d'un atelier proposé par le Centre culturel du Crous de Paris. Aujourd'hui, on va parler harcèlement de rue avec Garance, de la place des femmes dans les orchestres avec Marie et représentation des femmes au cinéma avec Baptiste. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi l'honneur d'avoir à nos côtés Marie-Pierre Rixin, députée de l'Essonne, pour discuter sur ces différents sujets. C'est Faustine qui mènera cet entretien. Mais je vous propose d'abord d'écouter comment les gens perçoivent certaines affaires qui ont été révélées récemment.
Ah bah, ce qui se passe, il y a plein d'affaires. Les filles se plaignent d'être embêtées par les garçons.
Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui étaient au courant et personne n'a rien dit, alors que ça fait 30 ans que ça dure à peu près.
Ouais.
Et ça me fait penser un peu à l'affaire des SK aussi, où ouais. Tout le monde était au courant et personne n'a rien dit.
Mais encore la pression qui est là, pour qui bloque les jeunes femmes. Et parce que enfin, encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'hommes au pouvoir et ça aide pas à libérer la parole.
Je pense que c'est le résultat de beaucoup de pratiques qui sont encore normalisées aujourd'hui, de choses qui sont considérées comme normales. Une femme doit passer par cela si elle veut réussir. Donc c'est sûr qu'après, on va finir avec des réactions comme ça.
Marie-Pierre Rixin, bonjour et merci d'être parmi nous sur Radio Campus Paris.
Bonjour, merci de votre invitation.
Députée de l'Essonne depuis quelques mois, vous êtes également présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances de l'Assemblée nationale. Alors avant de nous parler de vous et de votre métier, je voudrais rebondir au micro-trottoir que l'on vient d'entendre. Le hashtag Balance ton porc a notamment fait débat par la dénonciation qu'il engendre. En tant que femme, que pensez-vous de ce mouvement ?
Ce mouvement, alors d'abord ce mouvement, il a été initié par des femmes qui étaient des icônes, des stars hollywoodiennes, dans de belles robes de soie que l'on voit sur des tapis rouges, une sorte de déesse athénienne. Et finalement, à travers ce mouvement, ce qu'elles nous disent, c'est que elles et nous, eh bien, c'est la même chose. C'est que finalement, ce qu'elles vivaient, ou ce qu'elles vivent encore d'ailleurs, est absolument la même chose que certaines d'entre nous ont pu vivre ou vivent encore. Donc finalement, la condition de femme serait la même, quelle que soit sa situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois profondément que ce qui vient de se dérouler est une sorte, alors on le compare à une sorte de mai 68 de femmes, on peut le comparer à une sorte de mur de Berlin qui serait tombé également pour les femmes, où en fait, tout cela pour dire que finalement, c'est un événement historique, vraiment, je crois, dans l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu'il y aura un avant et qu'il y aura forcément un après, et que je suis convaincue qu'aujourd'hui, une femme, par exemple, qui vivrait ce genre de choses qui, dans une entreprise, ou sur son lieu de travail, ou dans sa maison, ou dans la rue, se sentira forcément plus soutenue et plus encouragée à porter plainte. Et c'est une réalité. Puisque vous savez que 30%, il y a une augmentation de 30% des dépôts de plaintes depuis 2 mois en France. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même une réassurance de la part des femmes, qu'elles sont soutenues et qu'elles sont écoutées.
Justement, par rapport à ces 30% de plaintes en plus, est-ce que vous pensez que la justice peut vraiment avoir un rôle concret, puisqu'elle paraît quand même bien impuissante face à ces violences sexuelles ?
Alors c'est un très bon point que là aussi vous mettez sur la table, raison pour laquelle d'ailleurs au sein de la délégation des droits des femmes que vous avez rappelé que j'étais la présidente, nous menons actuellement un rapport sur le viol, en particulier sur le viol, qui est une forme de violence sexuelle, évidemment. Et nous menons un certain nombre d'auditions pour faire le point sur ce qu'il en est. Donc nous avons notamment auditionné la direction générale de la police, de la gendarmerie. Nous avons une audition cette semaine avec des avocats Et nous faisons effectivement un point pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui, dans le parcours d'une femme qui subit un viol, mais c'est le cas évidemment de tout type de violence sexuelle, quel est son parcours en tant que victime ? Ton parcours, quel type de d'acteur ou d'actrice elle a, ou d'institution elle a sur son chemin. Elle a évidemment des institutions médicales que nous allons évidemment aussi auditionner. Elle a des acteurs associatifs que nous avons déjà auditionnés. Elle a effectivement les services de l'ordre, donc police et gendarmerie. Et elle a également la structure judiciaire. La structure judiciaire est là pour répondre, non pas pour... est là pour sanctionner un acte, donc sanctionner l'auteur d'une violence. Elle n'est pas là forcément, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, pour réparer la douleur de la victime. Elle est là pour sanctionner. Et donc, pour sanctionner sur la base de preuves. C'est toujours la question de la preuve, de savoir comment on va pouvoir condamner quelqu'un. Donc là, c'est la raison pour laquelle il faut effectivement porter plainte. Le fait de porter plainte, ça n'est pas facile. Ça n'est pas la même chose que de s'exprimer face à une association. On est face à une personne de la force de l'ordre qui va également nous mettre en contradiction par rapport à ce qu'éventuellement on révèle pour être sûr de la véracité de ce que l'on affirme. Et c'est bien normal d'ailleurs dans un état de droit. Donc il faut effectivement que cette justice passe. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut que les victimes soient également accompagnées dans le cadre de ce parcours judiciaire pour pouvoir également être entourées et de manière à ne pas reculer face à ce qui est, il faut bien l'avouer, une épreuve pour les victimes.
La carrière de Weinstein est finie. Kevin Spacey a été viré de la série House of Cards. En fait, on tend de moins en moins à séparer l'homme de l'artiste. Pourtant, beaucoup d'entre eux dans l'histoire ont eu un comportement répréhensible. On pense notamment à Polanski, qui a pu continuer sa carrière malgré les polémiques qui l'entourent depuis 40 ans. Que peut-on faire pour encourager la création artistique et continuer à promouvoir et étudier ses œuvres sans pour autant être indulgent sur des actes qui peuvent être condamnables ?
Donc là aussi, il y a deux points de mon point de vue. Il y a l'homme, ce que l'homme fait. Et il y a d'autre part la question également des violences sexuelles dans les œuvres artistiques, qui sont également un deuxième point. Sur lequel on peut mener une réflexion. Il y avait un dossier dans Libération la semaine dernière très intéressant et qui montrait bien également la question de savoir où jusqu'où on peut renouveler les stéréotypes et ce que ça entretient comme culture du viol. Et en même temps, de laisser à l'artiste, à la création artistique, la possibilité également de raconter des histoires dans lesquelles il peut effectivement aussi y avoir des stéréotypes, en tout cas des violences sexuelles. Donc ça, il y a deux points de vue de ce côté-là. Concernant ce que vous disiez tout à l'heure, le parcours artistique de l'homme, de mon point de vue, il n'y a pas d'indulgence. À partir du moment où un individu, quelle que soit sa profession, si ces hommes-là étaient bouchers, maçons, consultants ou directeurs de banque, on n'aurait pas, ils seraient sanctionnés en tant qu'hommes de la même manière que n'importe quel individu. Et donc ces artistes, le fait d'être artiste ne leur confère pas une légitimité supérieure à pouvoir exercer leur profession. Alors même qu'ils ont exercé des violences sexuelles contre des hommes, contre des femmes, peu importe. Donc de ce mon point de vue-là, moi j'ai pas d'indulgence du tout. Je considère que par exemple la une des Inrecuptibles, lorsqu'ils ont mis en une de nouveau Bertrand Cantat, était une erreur. Je ne suis pas du tout convaincue que le fait on a un panel d'artistes aujourd'hui en France et de cinéastes qui sont absolument merveilleux. Monsieur Polanski a d'indéniables vertus artistiques et c'est un cinéaste évidemment qui fera école dans l'histoire du cinéma, ça on ne peut pas le lui enlever. Il a fait des films absolument remarquables au premier titre desquels Le Pianiste par exemple, mais en revanche on ne peut pas le mettre en icône, en modèle, parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'actes pour lesquels il a été jugé ou pas d'ailleurs, dont on ne sait pas, enfin là encore je ne veux pas savoir, je ne sais pas exactement ce qu'il en est advenu, donc je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais en tout cas le mettre en avant par rapport à une œuvre artistique, il faut d'abord s'interroger sur effectivement le modèle qu'il confère à une société. Voilà. Mais bon,
c'est effectivement quelqu'un qui, c'est un cas d'école effectivement.
Je vous propose tout de suite d'écouter un titre qui a été sélectionné par JKL, qui a participé avec nous à ces ateliers, mais qui ne pouvait malheureusement pas être autour de la table avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Man, I Feel Like a Woman de Shania Twain. C'était « Man, I feel like a woman » de Shania Twain sur Radio Campus Paris.
Une des raisons que je trouve fondamentale, pour, c'est que les femmes aient la possibilité d'avoir un exercice dans le pouvoir plus important, soit au niveau de présidentiel ou soit, par exemple, au niveau parlementaire, dans les parlements et les congrès.
Simone et Beyoncé, le féminisme en 2017.
Faustine, tu as d'autres questions à poser à Madame la députée.
C'est ça, merci Mouna. Après avoir parlé actu, parlons politique. Quels sont les objectifs de la délégation aux droits des femmes que vous présidez ?
Alors la délégation aux droits des femmes, elle a été instituée par une loi, la loi de 1999, je le rappelle juste parce que c'est important, il y en a une aussi au Sénat. Nous sommes composés de 36 membres de toutes tendances politiques, enfin de tous groupes politiques confondus, transpartisanes, composés donc de 28 femmes et de 8 hommes. Nous avons vocation à éclairer nos collègues sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc à la fois sur une question de contrôle de l'action du gouvernement, donc de s'assurer notamment qu'un certain nombre de textes n'ont pas d'impact négatif en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, mais également à porter sur le devant du champ parlementaire un certain nombre de sujets qui impactent en particulier les droits des femmes ou l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc en l'occurrence, nous avons déjà fait un rapport sur l'exercice budgétaire. Nous en faisons un deuxième donc sur le viol, comme je vous l'ai indiqué, et un troisième sur les femmes et les sciences. Voilà, donc à travers également un certain nombre de déplacements, d'événements que nous organisons.
N'est-il pas trop difficile pour une femme de s'intégrer dans la politique, qui est un domaine historiquement masculin ?
Alors, moi j'ai un parcours un peu différent parce que c'est ma première expérience politique. Je n'ai jamais été élue auparavant, je n'avais jamais fait de politique non plus avant le mouvement de la République En Marche. J'étais consultante, donc rien à voir avec la politique. La chance que j'ai eue, c'est que le mouvement d'Emmanuel Macron a tout de suite compris, ce qui fait partie de l'ADN de ce mouvement, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, il y avait vraiment la volonté de la part du gouvernement, du président de la République à l'époque candidat, de souhaiter que les candidats aux élections législatives seraient à part égale des hommes et des femmes. Et notamment sur des circonscriptions également qui seraient gagnables, parce qu'ils souhaitaient notamment que les députés En Marche qui seraient élus soient composés de manière à peu près égale de femmes et d'hommes. Donc, y a eu un appel à candidature d'hommes et de femmes, sauf qu'à un moment donné, y avait insuffisamment de femmes par rapport aux hommes, parce qu'il y a toujours la crainte pour une femme de ne pas être compétente. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites aux États-Unis qui montrent qu'effectivement les femmes ont toujours un sentiment d'illégitimité ou d'incompétence. Donc il y a eu une formation, une journée où il y a eu une journée de coaching et il y a eu comme ça de plus de femmes qui ont candidaté. Donc moi j'ai fait comme tous les autres candidats que nous étions, donc j'ai répondu à une candidature en ligne et ma candidature a été retenue. Et puis la campagne, après, s'est déroulée plutôt bien, puisque la personne que j'affrontais principalement était également une femme. Donc, je n'ai pas eu à rencontrer de problématiques de sexisme durant ma campagne électorale. Et arrivé à l'Assemblée nationale, c'était la même chose. J'ai pas du tout été confrontée non plus à des problématiques de sexisme, puisque 48% des députés En Marche étaient des femmes, que nous sommes maintenant plus de quasiment 39% dans l'hémicycle. Donc on voit, ça n'est pas une exception d'être une femme. Il y a eu un rajeunissement également de l'Assemblée nationale. Donc on ne se pose pas de questions, par exemple, quant à sa tenue vestimentaire ou à sa place ou non dans l'hémicycle. Voilà, maintenant, il faut être toujours vigilante, parce qu'il y a toujours quelques tentatives parfois de machisme ou de sexisme qui peuvent intervenir, mais de manière quand même très disparate. Et tout le monde veille au grain, à la fois le président de l'Assemblée nationale qui est féministe, le président de notre groupe, les présidents de commission sont de manière égale des hommes et des femmes, le bureau de l'Assemblée nationale est composé de manière paritaire d'hommes et de femmes, donc tout le monde veille, et la délégation des droits des femmes évidemment, qui est une vigie par rapport à ce sujet-là, tout le monde veille à ce que ça se passe bien pour les femmes à l'Assemblée nationale.
Et en tant que députée, justement, quel rôle pouvez-vous jouer dans l'égalité des genres ?
Alors, en tant que députée, comme tout autre député, je peux effectivement interroger le gouvernement pour savoir notamment si telle disposition impacte davantage les femmes ou les hommes. La question qui se pose aujourd'hui avec la délégation aux droits des femmes, c'est ce que nous avons voulu montrer, c'était de s'assurer qu'il y avait notamment un budget suffisant pour les droits des femmes, ce qui est le cas. Nous avons, de ce point de vue-là, travaillé pour montrer que le budget était là. Et puis ensuite, c'est de s'assurer que, par exemple, je vous prends un exemple, on va prochainement travailler sur le logement, dans le cadre de l'année 2018, c'est de s'assurer qu'un texte comme celui-ci prend en compte les problématiques de certaines femmes ou des femmes de manière générale. Donc c'est s'assurer notamment que les femmes ont accès à la propriété de la même manière que les hommes, c'est s'assurer que la question du logement, qui est le problème numéro un, notamment dans les problèmes des violences conjugales, soit bien pris en considération dans le cadre des logements d'urgence qui vont être traités dans le cadre de ce projet de loi. Donc c'est à chaque fois mesurer quel est l'impact pour les femmes, pour les hommes, et si finalement on arrive effectivement à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Et justement, Emmanuel Macron avait promis un ministère du droit des femmes. Pourquoi n'y a-t-il qu'un secrétariat ?
Alors c'est un secrétariat d'État parce que ce qui est intéressant avec le secrétariat d'État, c'est qu'il a vocation à être interministériel. Donc d'abord, il est rattaché au Premier ministre, qui lui donne davantage de poids, davantage de moyens. Et ensuite, il travaille de manière totalement interministérielle avec l'ensemble des ministères. Parce qu'évidemment, la question des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une question uniquement en soi. Elle touche l'ensemble des sujets. Et donc, de ce point de vue-là, il y a d'ailleurs un budget interministériel de 420 millions d'euros qui permet de travailler de manière interministérielle sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
D'ailleurs, l'égalité des salaires est encore un des grands enjeux afin d'atteindre l'égalité femmes-hommes. Si le gouvernement peut agir dans la fonction publique, comment peut-il intervenir dans le secteur du privé ?
Alors, de ce point de vue-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'égalité de salaire, les 20% d'écart entre les femmes et les hommes, comment il est articulé, d'où il vient cet écart ? Est-ce que c'est vrai que dans une entreprise, on paye 20% de moins les femmes que les hommes ? En fait, la réalité, c'est que cette différence de salaire, elle provient de trois origines. La première, c'est le temps partiel. Il y a davantage de femmes qui sont en temps partiel que les hommes. La deuxième raison, c'est notamment le fait qu'effectivement, il y a des entreprises qui paient moins les femmes que les hommes, 8% en moyenne. Donc il faut qu'on joue sur l'ensemble des leviers pour combler les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Et puis le troisième vecteur, c'est effectivement que les femmes investissent également des voies professionnelles qui sont moins rémunérées que les hommes. Et donc, il faut, et notamment, c'est la question du rapport entre les femmes et les sciences, il faut absolument que les jeunes femmes, les jeunes filles, les petites filles s'intéressent autant aux mathématiques, aux sciences, entre guillemets, dures que les garçons, parce que ce sont des métiers qui sont hautement stratégiques pour l'avenir d'un pays et qui seront probablement des métiers où demain, on gagne, ou déjà aujourd'hui d'ailleurs, on gagne mieux sa vie que dans d'autres métiers. Donc, il faut que les femmes investissent également des champs professionnels où les rémunérations sont les plus importantes. Mais concernant les fameux 8% dont je parlais tout à l'heure, l'État a également son rôle à jouer de sanctions par rapport à ce phénomène-là.
Il faudrait briser ce fameux plafond de verre.
Absolument.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Rixin. Donc, en parlant de conditions des femmes, Garance, tu vas nous parler d'un débat qui portait sur le harcèlement subi par les femmes dans un lieu qu'elle côtoie beaucoup, la rue.
Je suis allée assister à un débat sur le harcèlement de rue avec 15 étudiantes et étudiants venus débattre du sujet. C'est une initiative d'Ayoni Jackson qui travaille pour la Direction régionale des droits des femmes et de l'égalité et qui s'occupe du Tour de France de l'égalité, qui est une initiative de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Bon, le but, c'est de recueillir un peu la voix du public. Donc, ils appellent ça les inaudibles et les invisibles, mais les ateliers qui ont été organisés, ça a souvent été avec des associations, donc il n'y a pas eu trop de public invisible. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de faire un atelier avec des étudiants, vraiment des personnes lambda, sur tout plein de thèmes qui concernent l'égalité femmes-hommes. Et le but, c'est de recueillir toutes ces voix et toutes ces propositions. Ce qui serait bien, c'est qu'à la fin de notre atelier aujourd'hui, c'est qu'on ait des propositions un peu concrètes à leur faire remonter sur ce qu'ils pourraient faire, du coup, notamment en ce qui concerne le harcèlement de rue, qui est quand même très présent.
Donc le but de ce débat, ce n'était pas seulement que chacun parle de son expérience du harcèlement de rue, c'est aussi de faire remonter les propositions en lien avec le récent projet de loi de Marlène Schiappa.
Il y a trois plans en fait dans ce projet de loi. Il y a d'abord l'allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs qui aujourd'hui est à 20 ans, après la majorité, qui va passer à 30 ans en fait. Il y a aussi le projet de loi de faire une présomption de non-consentement pour les mineurs, et l'âge doit être fixé en fait, c'est encore en débat, entre 13 ans ou 15 ans. Pour dire que voilà, à partir du moment où un majeur a une relation sexuelle avec quelqu'un de moins de 15 ans ou de moins de 13 ans, ce sera automatiquement considéré comme un viol et donc que la victime sera non consentante. Et enfin, tout le projet autour du verbalisation du harcèlement de rue et du harcèlement sexuel de manière générale, mais ça c'est encore assez flou. Parce que c'est vrai que les associations notamment, bien que le principe de verbaliser soit pour, en fait, dans les faits, c'est très difficile à mettre en place. Et quand on voit l'impunité des viols notamment, qui sont déjà bien dans la loi comme interdits, en fait, on se rend compte que le harcèlement de rue, ça va être encore plus dur, quoi.
Celle qu'on vient d'entendre, c'est Pauline Chanvin, responsable presse de l'association Politiquelle, qui œuvre notamment à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et qui s'adresse plutôt aux jeunes femmes. C'est une asso qui a été fondée à Sciences Po par les étudiantes elles-mêmes.
Donc on a différentes actions, donc notamment tout ce qui est, on fait une grosse veille en fait autour de tout ce qui est sexisme. On essaye aussi de s'impliquer dans le cyberharcèlement et le cybersexisme, y compris auprès des lycéens, parce que le cyberharcèlement touche beaucoup les lycéens. Et donc on participe aussi à tout ce débat de fond pour faire un peu de lobbying en fait auprès de Marlène Schiappa et de donner nos idées et nos témoignages qu'on a pu recevoir.
Le débat fut long, plus de 2 heures, et chacun a essayé, avec son approche personnelle du sujet, de proposer des solutions, mais aussi d'y voir plus clair dans ce flou autour du harcèlement de rue. Comment est-ce qu'on peut le définir? Dans quelle mesure peut-on le verbaliser légalement, comme le propose Marlène Schiappa, et est-ce vraiment pertinent?
Moi, j'aime bien les trucs comme ça, parce que même si dans le fond, on est évidemment tous d'accord sur la question, il y a toujours même des différences, même minimes, qui sont hyper intéressantes de confronter, parce qu'on se rend compte que c'est un problème qui est évidemment bien plus complexe que simplement les mecs qui te suivent dans la rue. Ça va avec tout, ça va avec les sensibilités de chacun, la façon dont tu as été éduqué, la façon dont tu te comportes toi-même dans la rue, dont tu te perçois. Et je trouve ça hyper intéressant de confronter ça, et pourtant d'arriver à un stade où on arrive quand même à trouver une sorte de solution qui est hyper pragmatique, parce que l'idée de refonder l'éducation, pour moi c'est essentiel, et ça me fait plaisir de me rendre compte que je suis pas seule à me dire que c'est là le problème. C'est absurde d'obliger un mec à payer une amende alors qu'il va même pas comprendre pourquoi est-ce qu'il paye une amende, tu vois. Alors que si à la base on lui a répété, on lui a martelé que non, une femme c'est pas un morceau de viande avec un petit cul qui se balade dans la rue, ça va le faire. Là il va comprendre que bah non, ça le fait pas, quoi.
Comme le dit si bien Bulle, ce qui est ressorti de ce débat, c'est que globalement, plutôt que de verbaliser, il faut éduquer. Parmi les solutions évoquées, il y a l'idée d'essayer de mettre en place des stages de prévention dès le collège, des stages qu'on pourrait qualifier d'antisexistes, pour, j'ai envie de dire, tuer dans l'œuf les comportements potentiellement sexistes.
Et en fait, ces stages qui seraient mis en place dès le collège seraient justement un des moyens qui permettrait à chaque enfant de se dire non, ce comportement du harcèlement, ce n'est pas normal. Donc c'est la normalité du harcèlement qui était mise en avant.
Moi, je pense que ce débat, ça a permis, ou du moins ça m'en a donné l'impression, de vraiment reprendre la main sur ce débat. Parce que trop souvent, quand il est pris en charge par des politiques, et lorsque l'on parle de harcèlement de rue dans les médias, c'est en instrumentalisant totalement la question. Et moi, j'ai trouvé ça super enthousiasmant.
Merci beaucoup, Garance, pour ce reportage. Donc justement, nous avons avec nous Marie-Pierre Rixin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances, qui porte donc sur ces problématiques. Faustine, je me tourne donc vers toi pour de plus amples questions.
D'après le gouvernement, quelle est la frontière entre la drague et le harcèlement ?
C'était très bien présenté dans votre reportage. Effectivement, on travaille actuellement, enfin le gouvernement travaille actuellement, Marlène Schiappa et Nicole Belloubet travaillent sur un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Dans le cadre duquel il y aura trois piliers, vous les avez rappelés, parmi lesquels, en fait, l'outrage de sexiste que l'on appelait avant ou qu'on appelle encore parfois le harcèlement de rue, mais qui c'est plutôt un outrage sexiste. Parce qu'il peut se dérouler dans la rue, mais pas uniquement dans la rue, on va dire. Donc la question, c'est de se demander où est la frontière entre les deux. Est-ce que ce dont je suis convaincue, c'est qu'on a tous une base commune de ce qu'on sent qu'on a le droit de faire ou pas. Et cette base commune, c'est quand on met quelqu'un mal à l'aise. Donc il peut s'agir de la drague, mais d'autres phénomènes. Quand vous flattez quelqu'un, une amie par exemple, même si vous ne la draguez pas, vous savez ce qui va mettre mal à l'aise, si ce sera en public ou pas, en fonction de sa personnalité. Donc vous sentez très vite ce que vous pouvez vous permettre de faire, de ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Et ça, intuitivement, chacun, on l'a en nous. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut en amont travailler sur des actes de prévention pour rappeler un certain nombre d'éléments qui ne seront plus possibles aujourd'hui à l'égard des femmes. On peut continuer à draguer, draguer. D'abord, ça signifie que vous êtes consentant. La personne à qui que vous draguez doit être consentante ou pas. Et ça, vous le sentez très rapidement si la personne est d'accord ou pas. Si elle n'est pas d'accord, eh bien, vous vous arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, ça devient du harcèlement. Donc, la question entre le harcèlement et la drague, elle est, moi, je crois... Il n'y a pas vraiment de zone grise. On parle beaucoup de ça en France, mais il n'y a qu'en France qu'on parle de ça. Il y a d'autres pays, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres pays qui sont très vite intervenus sur le sujet parce qu'on voyait très rapidement qu'il n'y en avait pas de zone grise. Et donc, je crois qu'il faut arrêter, parce que cette zone grise, pour moi, c'est une excuse lorsque, effectivement, il y a des dérapages en matière de drague.
D'accord. Donc, par exemple, si demain un homme me dit dans la rue vous êtes jolie, là, ça sera de la drague. Et si jamais il voit que ça me met mal à l'aise et qu'il continue, ça devient du harcèlement.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on peut continuer à complimenter quelqu'un. Et puis, s'il voit qu'effectivement, si vous lui demandez d'arrêter ou s'il voit que ça vous met mal à l'aise, mais qu'il continue, eh bien, ça devient du harcèlement, en effet.
D'accord, merci. Donc du coup, pareil, le gouvernement d'Emmanuel Macron veut mettre en place une police de sécurité du quotidien. Comment va-t-elle agir et est-ce qu'elle peut être réellement efficace ?
Alors la police sécurité du quotidien, elle va être composée de différentes entités en matière de police. Donc il y a à la fois la police nationale, mais ça pourrait être également éventuellement les polices municipales qui pourront aussi intégrer ce dispositif. Et l'objectif, c'est de travailler effectivement en amont avec la population, de travailler sur ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Donc d'être dans la prévention, dans le quotidien, ce qu'aujourd'hui la police nationale n'a pas forcément la possibilité de faire sur le terrain. Donc d'accompagner le plus en amont possible. Et puis, effectivement, l'idée de l'outrage sexiste, ce serait de permettre à cette police du quotidien de pouvoir verbaliser lorsqu'elle constate, de la même manière que lorsque vous dépassez les 50 à l'heure dans une commune, dans une ville, vous êtes sanctionné si effectivement il y a un policier qui constate que vous dépassez ces 50 km/h, il vous verbalise. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il constate un outrage qui aura été qualifié en amont par la loi, il peut vous verbaliser. Évidemment qu'on ne va pas mettre un policier derrière chaque femme. Tout le monde l'a répété, et c'est vrai. Mais la vocation de cette disposition, c'est de rappeler l'interdit. On a toutes, peut-être, ou tous, été un jour on a été témoin ou victime de ce type d'attitude dans la rue. Et le fait est qu'on ne pouvait pas soi-même répliquer à l'auteur « ce que tu fais est interdit, je vais pouvoir me plaindre, je vais pouvoir, tu ne devrais pas faire ce que tu es en train de faire, c'est interdit ». Et ça, je crois que c'est important, c'est-à-dire que ça va armer également les victimes d'un discours qui étatique, qui les entourera en disant qu'effectivement ce qu'elles subissent n'est pas autorisé. Donc ça, de mon point de vue, c'est important.
Mais vous n'avez pas peur qu'il n'y ait des abus, par exemple, quel genre d'acte va être verbalisé ?
Alors ça, c'est toute la définition que l'on est en train de sur laquelle on est en train de travailler. Donc il y a à la fois un groupe de travail à l'Assemblée nationale, transpartisan là aussi, composé de 5 députés qui travaillent sur le sujet. Parallèlement, il y a le Haut Conseil à l'égalité dans la commission violence, donc moi à laquelle j'appartiens par exemple, où on est en train de réfléchir sur ces qualificatifs de harcèlement de rue. Il y aura un rapport qui sera remis pour donner des éléments complémentaires au cabinet ou qui permettraient d'alimenter le débat parlementaire. Mais c'est un vrai débat qui est en cours, donc en amont du projet de loi, et qui évidemment aura vocation à être travaillé au Parlement lorsque le projet de loi sera à l'ordre du jour.
D'accord, donc elle sera pas mise en place tout de suite. Est-ce que vous auriez une date
Alors, il faut juste que vous ayez en tête que là, on prépare le projet de loi. Donc, lorsqu'on disait dans le reportage, par exemple, que l'on définissait actuellement l'âge irréfragable en dessous duquel il n'y aurait pas de consentement, là aussi, c'est en cours de réflexion au niveau gouvernemental, mais après, ça va être discuté au Parlement. Donc, tous les 10 ans également de rallongement de la prescription, ça aussi, il y a peut-être des amendements de mes collègues qui déposeront 15 ans, 20 ans, voire même l'imprescriptibilité. Donc, tout ça, ça va être discuté au Parlement. Aujourd'hui, on ne sait pas, enfin moi je ne peux pas vous dire à quel moment le projet de loi va être déposé en Conseil des ministres. Je crois que la promesse était de dire que ce sera en 2018, mais je n'ai pas plus de vision par rapport à ça.
D'accord, merci. Et du coup, quelle autre solution envisagez-vous pour stopper ou tout du moins limiter le harcèlement de rue?
Alors le harcèlement de rue, donc il y a la prévention, ça c'est évident. Il y a déjà un certain nombre de dispositions législatives qui existent. Il y a déjà des règles. L'injure, par exemple, est interdite. On n'a pas le droit d'injurier quelqu'un dans la rue. Donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui pourraient déjà être appliqués, hein, davantage d'ailleurs. Je pense que ce serait bon de rappeler à chacun et à chacune ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Et puis de renforcer cela par effectivement le projet de loi en question.
Mais j'ai une question.
Oui.
Enfin, par rapport aux insultes, etc., on ne les perçoit pas tous de la même manière. Mmh. Enfin, je prends par exemple ce qui s'est passé à Miss France, quand l'actuelle Miss France parle d'Alicia Eliès et qu'elle parle de sa crinière de lionne. Pour beaucoup, ça a été perçu comme quelque chose de très sexiste et raciste, parce qu'on a tendance à hypersexualiser et à animaliser la femme noire. Mais pour d'autres, il s'agissait plutôt d'un compliment. Donc comment faire la part des choses à ce niveau-là?
Il y a une base commune. Là aussi, je crois, on vit dans une société, on a un langage commun et on sait très bien, il suffit de prendre le dictionnaire, hein, il y a des mots dans le dictionnaire qui sont qualifiés d'au-delà de l'argot et qui sont qualifiés par des injures. Je ne vais pas vous les citer ici, mais il y a un certain nombre de mots dont on sait très bien que si on les utilise, ce seront des injures. Après, il y a des expressions qui peuvent injurier la personne en fonction de sa situation personnelle. Et là, après, c'est effectivement la frontière entre les deux qui est un peu plus, perméable et subjective. Mais c'est à chacun aussi de savoir ce que l'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire.
D'accord, merci beaucoup. Donc justement, ce problème de respect envers les femmes peut être considéré comme issu d'une ultra-genrification du quotidien, ce qu'on peut par exemple retrouver au sein des orchestres, et c'est Marie qui nous en parle. Bonjour Marie.
Bonjour Mouna. Et alors moi, c'est dans un orchestre que je me suis rendue, et plus précisément au COSU, le Chœur et Orchestre Sorbonne Université, qui répétait samedi 9 décembre au Centre Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. Alors le COSU, c'est un orchestre universitaire donc, qui réunit 120 musiciens et choristes, pour la plupart déjà inscrits à la Sorbonne en musicologie. Et moi, j'ai pu assister à leur répétition publique du samedi, alors qu'ils préparaient leur concert de fin d'année. Donc au programme, la 9e symphonie de Beethoven et sa célèbre Ode à la joie, qui est aussi l'hymne européen que nous connaissons tous. Et j'en ai profité pour poser quelques questions à plusieurs musiciennes, notamment à Andrea, 20 ans, trompettiste.
Est-ce que tu penses déjà que ton instrument, c'est un instrument plus de filles ou de garçons?
Alors ça a été longtemps un instrument totalement masculin et même encore aujourd'hui les filles se font très rares dans les orchestres professionnels. Pour dire en France il doit y avoir 4 filles sur une vingtaine d'orchestres où il y a généralement 3 voire 4 trompettes par orchestre. Et encore maintenant il faut prouver que les filles sont au-dessus, sont meilleures, peuvent fournir autant que des hommes voire plus. Parce que étant une fille on a tendance à être un peu rabaissée.
Petit point technique donc la trompette c'est un instrument qui fait partie de la famille des cuivres et qui est une sous-famille des instruments à vent et en fait depuis longtemps et encore aujourd'hui les cuivres donc que ce soit trompette, trombone, tuba etc. sont souvent vus comme des instruments plutôt masculins.
Dans l'orchestre les cuivres sont toujours puissants tout ça et du coup je pense que par rapport à ça les filles, une fille c'est mignonne, ça peut pas forcément fournir autant qu'un homme alors que si.
Alors j'ai également rencontré Mathilde qui a 19 ans et qui fait du trombone. Donc le trombone c'est un instrument qui est encore plus grand et plus imposant que la trompette. Elle m'a confié que le trombone était un instrument très masculin, joué à l'origine par des hommes, mais qui commence vraiment à se féminiser. Alors qu'est-ce qui favorise cette mixité aujourd'hui? Mathilde m'a donné son explication.
Bah, on se dit qu'on peut. Avant on disait c'est pas un truc de fille, de souffler fort dans un truc en métal. Parce que ouais, ma prof elle me disait quand elle avait commencé... Ses parents l'ont regardé, ils ont dit mais non, enfin, et qu'on peut tout aussi bien souffler dedans que voilà.
Alors du coup, rien de physique dans cette affaire. Souffler dans une trompette, ça demande autant de travail à une fille qu'à un garçon. Ces instruments-là sont donc de plus en plus mixtes, comme j'ai pu le voir au Cosu, avec beaucoup de filles qui faisaient des cuivres et des percussions, etc. Alors le problème, c'est pour tous les instruments, et c'est voilà ce qui se passe quand on arrive à un niveau de musique professionnelle.
On dit qu'il y a beaucoup plus de violonistes filles, mais quand tu vois les orchestres, finalement, il y a quand même plus de gars. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'ils se font recruter plus facilement ou parce que... Du coup, je sais pas à quoi c'est dû, mais il y a quand même beaucoup de petites filles qui font du violon, mais après, dans les orchestres, on n'en voit pas plus.
Et c'est là que le sexisme, ou du moins l'inégalité entre les femmes et les hommes, est visible. Parce que accéder à un orchestre professionnel, c'est encore plus difficile si vous êtes une femme que si vous êtes un homme. Clara, 20 ans, qui joue de la clarinette, partage son expérience.
Après, ce qui est dommage, c'est que dans l'enseignement, il y a de plus en plus de femmes, mais que dans les hauts rôles, je parle pour la clarinette, ce que je connais le mieux, dans les grands postes de soliste, c'est majoritairement quand même des hommes. Donc, après, je pense qu'à un niveau de la carrière, peut-être ça bifurque et les femmes choisissent l'enseignement. Par confort aussi, parce que c'est triste à dire, mais dans les orchestres, y a quand même, on n'y échappe pas, il y a du sexisme partout. Fin...
Alors, il y a du sexisme partout, et jusque dans les mots qui sont employés en musicologie, l'étude de la musique.
Dans la musicologie à l'ancienne, on enseignait que le thème lyrique, très mélodique, était le thème féminin, alors que le thème rythmique, c'est le thème masculin. Donc peu de profs l'utilisent encore. Maintenant, ça tend à disparaître sous cette appellation. Mais voilà, quoi, même dans l'enseignement, il y a encore cette distinction fille-garçon qui n'a pas lieu d'être, en fait, parce qu'un garçon peut faire des phrases très mélodiques et une fille peut jouer très rythmiquement. Moi, je trouve ça dommage qu'on me l'a déjà dit, faut que tu joues comme un mec, faut que tu sois couillu, alors que... Ça n'a aucun rapport, en fait.
Alors, une des solutions à cela, comme on l'entend souvent et comme ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, ça peut être de revenir à la base du problème, c'est-à-dire au moment où les enfants qui commencent la musique au conservatoire choisissent leur instrument.
Quand on est petit, on n'a pas forcément conscience de cet aspect du sexe des instruments. Il y a une musicologue qui s'appelle Hyacinthe Travet, qui est sociologue, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus et qui parle dans son livre qui s'appelle « Musicienne » du sexe des instruments, justement. Et c'est vrai que pour les adultes, on a tendance à avoir assimilé ce truc que les cuivres, par exemple, c'est des instruments d'hommes parce que c'est gros, c'est du métal, alors qu'il faut tout autant de souffle pour un instrument en cuivre qu'un bois. Il n'y a pas besoin de plus de choses. On a tous deux poumons et voilà, qu'on soit homme ou femme.
Enfin, j'ai pu interroger Corinna Niemeyer, qui est donc la chef d'orchestre qui dirige le COSU, qui est franco-allemande, qui dirige le COSU depuis bientôt 2 ans, et qui s'est confiée sur son métier.
Il y a tellement peu de femmes dans ce métier que c'est vraiment difficile d'apprendre par une femme, parce qu'il n'y en a pas dans le niveau supérieur, entre guillemets, desquels on apprend quand on se professionnalise. Il y en a très peu.
Alors très peu de femmes, mais un espoir de féminisation du métier. Alors en effet, Corinna Niemeyer fait partie du projet DEMOS, donc dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Donc en fait, c'est un projet qui permet à des enfants issus de quartiers plus défavorisés d'apprendre la musique dans un orchestre. Et alors quelques enfants assistent parfois aux répétitions du COSU, et c'est ce que décrit Corinna.
Donc à la fin, parfois, on permet aux enfants de diriger. Et une fois, il y avait 7 filles qui étaient arrivées, qui voulaient diriger. Et je me suis retrouvée à dire... Mais il n'y a pas aussi un garçon qui veut venir et tout. Donc ils n'ont pas ce a priori que ça pourrait être un métier d'homme. Et donc ils veulent bien participer et ils ne se posent pas cette question.
Alors voilà pour la place des femmes dans l'orchestre, un milieu qui évolue de plus en plus avec les mentalités. Et donc je vous laisse sur fond de Beethoven et son ode à la joie et peut-être à l'espoir.
Donc, espoir dont on a bien besoin pour continuer à faire changer les choses. Merci beaucoup, Marie. Faustine, tu as une autre question pour Madame Ripper.
C'est ça. Aujourd'hui, le sexisme est encore ancré dans nos mentalités. Pour assurer l'égalité des genres chez les générations futures, la clé réside en grande partie dans l'éducation. Et moi, j'aurais voulu savoir comment peut-on éduquer les garçons au respect des filles tout en leur permettant de se construire en tant qu'hommes.
Alors, on a une persistance des stéréotypes dans notre société, c'est évident. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé notamment le 25 novembre dernier qu'il souhaitait qu'il y ait un renversement de ces stéréotypes, un travail sur les stéréotypes dès la crèche, que le personnel qui travaille dans les crèches soit formé pour éviter justement les différences que l'on constate encore aujourd'hui dans l'éducation des filles, des petites filles et des petits garçons. Et finalement, la question qui... Moi, par exemple, je suis maman d'un petit garçon. Et ce que je crois profondément, c'est la manière dont le discours que l'on tient aux enfants. Donc d'abord, tout ce qui va se faire à l'école, le fait de ne rien lâcher de ce que l'on peut constater de comportement entre les filles et les garçons, de faire en sorte que les filles puissent avoir autant d'espace dans la cour de récréation que les garçons, puissent accéder et jouer au même jeu si elles le souhaitent. Mais de la même manière, il faut que les petits garçons, eh bien, ils puissent jouer du violon s'ils le souhaitent ou du clavecin, et de la manière que si une fille veut faire de la batterie. Donc je crois que c'est plutôt... auprès à la fois des adultes qui encadrent les enfants, qu'il faut agir pour éviter que ces stéréotypes soient reconduits, qui sont évidemment sociétaux. Et donc, c'est à la fois le personnel des crèches. On pourrait imaginer également qu'il y ait davantage de communication qui soit faite, notamment auprès des parents ou des jeunes parents, pour leur expliquer qu'effectivement, un petit garçon ou une petite fille peut prétendre absolument à la même chose. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, je crois que les garçons, comme les filles, se construisent en tant qu'individus par rapport à un ensemble d'éléments. Et je ne vois pas en quoi le fait de travailler sur l'égalité entre les filles et les garçons ferait en sorte que les hommes soient moins hommes dans le futur. Je crois qu'au contraire, tout le monde sait qu'une société y gagne d'un point de vue économique, d'un point de vue social, lorsqu'il y a une égalité entre les femmes et les hommes. Il ne s'agit pas de prendre des droits aux uns pour les retirer aux autres. On donne davantage de droits aux femmes, mais on n'en enlève pas aux hommes.
Merci beaucoup Marie-Pierre Rixin. Donc pour continuer sur le thème de la musique, je vous propose d'écouter #MeToo de Vince, un jeune rappeur. Donc il s'agit d'un morceau de rap un peu hardcore avec des gros mots, mais le message est assez intéressant.
Décor, il est temps qu'on casse des portes. Si tant d'entre elles balancent des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu bitch pour une critique, que la femme est de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, ses pores me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe pour que tu t'en battes moins les couilles. Certaines abusent, mais je vois plus des gamines perdues que des salopes. Puis un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe. Et toi qui cries, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris. Oh la salope, dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie. Les traités de pute, c'est plus facile que d'admettre qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi. Car tu sais pas, t'y prendras avec, tu gonfles les pecs et les abdominaux. Je vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mâle dominant. Puis on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans l'abus. Oui, regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue. Étouffée par son étreinte, rares sont celles qui portent plainte. En finale au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu. J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende. Elle qui considère qu'à 11 ans on peut être consentante.
Un homme de 30 ans a quitté après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. L'avocat a plaidé le consentement.
Il faut que son corps tombe à terre pour qu'on voit la gravité. C'est la victime qu'on interne, les coupables sont acquittés. Nous parle pas d'égalité. Ici on sait pas qui c'est, ça fait un bail qu'elle nous a quittés. Donc être un homme, parfois j'ai honte. Moi qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Pas besoin d'avoir sa mère sur le trottoir pour être un beau fils de pute. Tu me crois pas? Viens voir les chiffres. La vérité secoue, y'a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous écrou. Son homme l'a mis au pied du mur, cette nuit c'est pas ce dont elle rêvait. Car le viol se pack dans la rue, même en couple ça peut t'arriver. J'endors debout, même l'amour est tarifé. Frérot dis-moi ce qui est arrivé. On a été éduqués par des films de boules dans lesquels les femmes sont des chiennes et les hommes sont déchaînés, hein. Et se défoulent sur des meufs qui se font déchirer. Sales idées, peut-être qu'au départ t'hésitais, mais lui a décidé pour toi, rapport non désiré. Si l'homme est capable du meilleur, il peut aussi devenir le pire des animaux dès lors qu'il laisse ses pulsions définir.
Il faut qu'on se rappelle que dès la naissance, les garçons et les filles sont conditionnés. On attend d'une petite fille qu'elle soit bien sage, bien discrète, bien élevée, comme une future princesse. Et on apprend aux petits garçons à se comporter comme des super-héros, à avoir du pouvoir.
C'était Vince avec #MeToo. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
Pour moi, le féminisme, c'est arriver devant une porte avec un panneau « Danger de mort ».
Le féminisme, c'est le droit des femmes. C'est l'indépendance des femmes. Et voilà, le droit au travail, droit également à à l'expression et puis à l'égalité.
Simone et Beyoncé, le féminisme en 2017.
Je laisse maintenant place au seul monsieur de l'émission. Bon, la parité n'est pas parfaitement respectée, mais parfois, pour libérer la parole, c'est pas mal. Mais tu vas quand même nous parler de représentation des femmes au cinéma, Baptiste. C'est à toi.
Oui, tout à fait. Avant tout, je veux dire que je suis très content d'être au micro de Radio Campus Paris aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir, vraiment. C'est rare de pouvoir s'exprimer à la radio sur un sujet aussi délicat que celui des représentations sexistes dans l'industrie du cinéma, surtout quand on n'y connaît rien. Bon, cela dit, même si je suis pas trop au courant de tout ce qui se fait en matière de représentation sexiste, je passe quand même vaguement pour cinéphile, notamment en affichant ma prédilection pour d'obscurs films d'auteurs français. Les plus dramatiques et les plus français possibles, ça donne plus de crédit.
Regardez-moi cette bulle ! J'ai affilé cette saloperie de fronton pendant des mois et des mois. Résultat, il est dégueulasse. Pourquoi ? Parce que je suis nul en fromage, merde !
Film d'auteur, tout ça. Bref, je crois que j'ai quand même un semblant de légitimité aujourd'hui à m'attaquer à la question de la discrimination envers les femmes dans le 7e art. Une question qui, évidemment, a été récemment mise sur le devant de la scène par l'affaire Harvey Weinstein, qui nous a tous rappelé que le milieu du cinéma restait quand même vachement sexiste. Bon, et puis après ça, la vague de témoignages qui a suivi nous a aussi rappelé qu'en fait, c'était peut-être la société en général qui était vachement sexiste. Mais ça, vous l'aurez bien compris, je suis pas là pour me remettre en question, je suis là pour attaquer courageusement l'industrie cinématographique de façon vague et indifférenciée. Parce qu'il faut le bien dire, tout de même, le cinéma vous maltraite beaucoup votre image, mesdames. Oui. Longtemps, la femme a été réduite à des rôles secondaires et stéréotypiques, tels que notamment celui de le rôle de la mère au foyer plus ou moins désemparée.
C'est pas possible! C'est trop te demander de surveiller ton frère!
Mais tu me l'as pas demandé?
Ah bah je te le demande! Allez, va chercher des éponges!
Ou encore le rôle très réducteur de la femme d'eux.
Vous connaissez ma femme?
Oui, chef.
Elle est belle, hein?
Oui, chef.
Le rôle de séductrice, évidemment.
Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses?
Ou plus rarement des rôles d'antagonistes mineurs, mais souvent vraiment mineurs.
Non. Les femmes au volant, c'est la lâcheté personnifiée. Pourquoi elles dépassent pas ?
Bref, ça fait peu de variété, et plus embêtant, ça donne souvent des personnages féminins complètement définis en fonction de leurs homologues masculins. Forcément, quand on fait cette observation, il y a toujours quelqu'un pour rétorquer.
Mais ça, c'était avant.
Oui, et c'est vrai qu'à première vue, on a l'impression de voir beaucoup plus de personnages de femmes fortes et indépendantes aujourd'hui. Mais la représentation des femmes s'est-elle vraiment améliorée pour autant ? Et est-ce qu'on peut le mesurer ? J'en étais à peu près embourbé là dans mes réflexions quand Garance ici présente m'a suggéré « Eh mais pourquoi tu parlerais pas du test de Bechdel ?» Bah oui, le test de Bechdel, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt ? Bah principalement parce que jusqu'à hier soir je savais pas exactement de quoi il s'agissait. Alors en fait c'est un petit test vraiment très simple. Vous pouvez le faire vous-même à la maison si vous voulez. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un film. À ce moment-là vous vous posez trois questions toutes bêtes. Petit 1, y a-t-il au moins deux personnages féminins dans le film ? Attention on a dit personnages, hein, pas figurantes. Il faut au moins qu'elles aient un nom sinon ça compte pas. Petit 2, est-ce qu'à un moment ces femmes ont une discussion entre elles ? Et petit 3, c'est là que ça se corse, est-ce qu'elle parle d'autre chose que d'un homme ? Et si la réponse à ces trois questions est oui, alors le film réussit le test. Sinon, non, il échoue. Alors est-ce que ce résultat nous dit quoi que ce soit sur la qualité de la représentation des femmes dans le film en question ? Eh bien non. Par exemple, Avatar de James Cameron ne passe pas le test, quand bien même l'héroïne est littéralement Pocahontas, Pocahontas bleutée pour d'évidentes raisons de copyright, mais Pocahontas tout de même. En revanche, le film Transformers de Michael Bay, lui, passe le test, grâce à une scène où la mère du héros dit à Megan Fox « Vous êtes très belle ». Du coup, on pourrait se demander à quoi sert le test de Bechdel au juste. Eh ben en fait, c'est surtout un indicateur statistique. C'est sûr que ça n'a pas beaucoup d'intérêt à l'échelle d'un seul film, mais le fait de savoir qu'à peine plus de la moitié de la production cinématographique aujourd'hui passe ce test, bah ça nous donne quand même une certaine idée de la place qui tiennent les femmes. Puis ça permet de voir une évolution aussi. Alors, le fait que ce test de Bechdel n'ait aucun intérêt pour juger de la qualité d'un film en particulier empêche-t-il pour autant les gens de l'utiliser pour juger de la qualité d'un film en particulier ? Évidemment, non. Au point que certains cinémas suédois commencent à indiquer à leur audience si les films projetés passent le test, au même titre que les autres informations habituelles telles que réalisateur, genre, âge minimum recommandé, résumé copié-collé sur Allociné et tout le reste. Et c'est en cela que je crois que le test de Bechdel représente aussi un certain danger.
C'est un péril mortel ?
Peut-être pas non plus, mais ça reste quand même assez embêtant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si cette utilisation stupide du test vient à s'imposer, bah certes Hollywood va sans doute chercher à maximiser ses chances au box-office en produisant que des films qui passent le test de Bechdel, mais la question c'est comment les producteurs vont s'y prendre pour se conformer à la nouvelle norme ? Est-ce qu'ils vont se dire « Ah mince, maintenant on va vraiment être obligé d'avoir des personnages féminins plus significatifs et mieux écrits dans nos films, comme on nous le demande depuis des décennies ?» Ou bien est-ce qu'ils vont se dire « Bon bah il va falloir qu'on pense à rajouter une scène où des gonzesses causent de shopping et de maquillage dans chaque film ?» Enfin bref, je crois que c'est assez illusoire de croire qu'on va pouvoir régler la question de la représentation des femmes au cinéma en imposant un test aussi basique comme standard d'évaluation. De toute évidence, le problème est bien plus profond que ça, et les changements ne pourront se faire que très progressivement, à mesure que les hommes commenceront eux aussi à prendre conscience des disparités qui subsistent plus largement dans nos sociétés et à agir. Quand je dis les hommes, je veux bien évidemment parler des autres. Moi, là, je crois que c'est bon, oui. Après avoir passé 5 minutes à pourfendre le sexisme à l'antenne, j'ai plutôt le sentiment d'avoir fait ma part. J'ai rarement eu aussi bonne conscience, là. Bon, sur ce, j'étais très heureux de faire avancer votre cause aujourd'hui. Il va falloir que j'y aille, par contre. Mon réalisateur fétiche fait une avant-première de son dernier film, pas très loin, sur le malaise paysan, et ça s'annonce authentique, très vrai, tout ça.
Regardez-moi ce petit navet. À quelle heure on doit se lever, nous, le matin? On nous encolle jusque-là. Râle la gueule, râle la gueule, râle la gueule. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Patatrac!
Patatrac, faute de chute, ça sera mon mot de la fin, voilà.
Merci beaucoup Baptiste de nous avoir fait découvrir ce test. Je sais pas s'il y a d'équivalent au théâtre, mais s'il y en a un, Garance, la pièce que tu es allée voir, le passerait sûrement.
En effet, je suis allée rencontrer Pauline Riba, qui est une actrice, une auteure et une metteur en scène qui a signé l'an dernier sa première pièce de théâtre, Depuis l'aube, entre parenthèses, Ode au clitoris, avec Florian Chocard, Lionel Lingelzer, pardon, et elle-même. C'est une pièce dans laquelle elle donne à voir et à entendre le rapport de notre société au corps des femmes.
Alors, Depuis l'aube, Ode au clitoris, c'est donc une pièce en trois tableaux, écrite pour trois acteurs. Le premier tableau, il traite du thème du harcèlement de rue. Le deuxième tableau, on va plus toucher aux agressions sexuelles et voire même au viol. C'est vraiment la partie aussi centrale, quelque part, du spectacle et aussi la plus grave. Et le troisième tableau, on tente de dénouer les tabous liés à la sexualité féminine, mais pas que, aussi masculine. En 2013, je suis tombée sur un reportage d'une jeune femme belge nommée Sophie Peters. Et en fait, Sophie Peters décide de cacher une caméra dans son sac l'espace d'une journée où elle se rend, où elle, voilà, dans tout Bruxelles, elle se balade dans tout Bruxelles. Les images de cette journée, en fait, on découvre la manière dont elle se fait insulter, dont elle se fait siffler, dont elle se fait regarder dans la rue. T'es bonne. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est fou parce que toutes les femmes vivent ça. Moi, je vis ça, mes copines vivent ça. Et donc, j'en ai parlé, ce reportage m'a tellement marquée. Et en fait, chaque femme a une expérience à raconter en ce domaine. Chaque femme connaît la rue. Et je me suis dit, mais en acceptant ça, quelque part, c'est comme si on les laissait gagner. Et là, je me suis dit que c'était urgent, nécessaire de prendre la parole, parce que c'est des situations qui nous concernent toutes. Effectivement, il y a dans le spectacle une chanson qui est composée. Les paroles de cette chanson sont des insultes que j'entends dans la rue, que mes copines entendent dans la rue. Et donc, cette chanson a un pouvoir, sans tout vous dévoiler, mais cette chanson a un pouvoir assez comique, quand même, il faut le dire, puisqu'on chante, on danse sur des insultes. Ce décalage, il est nécessaire. En fait, il me semble que le fond du spectacle en soi n'est pas très drôle. Voilà, j'ai voulu toucher à des sujets qui sont assez violents. Enfin, les insultes que les femmes vivent et subissent dans la rue, c'est quelque chose qui n'est pas drôle en soi. C'est quelque chose qui est assez cru, qui est aussi très très violent. Et j'avais le sentiment que pour rendre audible cette chose insupportable, il fallait absolument de l'humour. Et c'est vrai que c'est aussi ça a été aussi ma volonté d'intégrer des hommes avec moi au plateau pour défendre cette parole. Parce que par exemple, si c'est Lionel, c'est un homme qui porte une parole de femme ou qui porte un témoignage d'une jeune femme qui se fait agresser dans le métro, ça n'a pas du tout la même portée, c'est pas du tout reçu de la même manière par le spectateur que si c'est moi, Pauline, femme, et donc j'apparais plutôt victime, et je ne voulais pas donner la place de victime aux femmes dans ce spectacle. Voilà, j'avais l'impression que ce décalage était vraiment nécessaire pour que le spectateur puisse entendre tout ce que j'avais à dire. J'ai le sentiment que soit j'étais très en colère d'avouer que je me fais aussi traiter de salope dans la rue, ou soit je le prenais par la voie de l'humour, parce qu'en fait, je trouve ça tellement absurde. C'est vrai que dans le spectacle, je reviens sur l'origine des mots, sur l'étymologie des mots. Et en fait, quand on y pense, traiter une femme de conne ou de salope, c'est absurde. Quand on revient sur le sens des mots salope, par exemple, ça vient de sale huppe, et la huppe, c'était un petit oiseau réputé pour sa saleté. Donc en vrai, quand on traite une femme de salope dans la rue, c'est comme si on l'insultait de petit oiseau sale. Bon, c'est assez absurde. Et pour moi, d'en faire une chanson, quelque part, c'était aussi absurde que les insultes que j'entends dans la rue. des retours qu'on a pu me faire. Oui, ton texte est un peu cru, ton texte est quand même assez osé. Non, je ne suis pas d'accord. Pourtant, je suis quelqu'un qui me remet en question, mais je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi je minimiserais la violence de la rue, de la réalité, de ce que vivent les femmes au quotidien, parce qu'il y en a dans une salle qui se disent que c'est insupportable d'entendre ça. C'est insupportable de l'entendre, mais quand on est toute seule le soir dans la rue, qu'on rentre chez soi et qu'on se fait traiter de pute, je peux vous dire que ça, c'est insupportable. J'ai croisé à Avignon des spectatrices qui me prenaient dans leurs bras après ou quelques jours après que je croisais dans la rue en me disant merci, ça m'a donné envie de partir à la découverte de mon propre corps. Bon, bah, c'est merveilleux. Moi, je retiens ça. J'ai reçu des témoignages sur Messenger par dizaines. Enfin, vraiment, j'ai reçu des lettres de lycéens, de lycéennes me disant merci d'oser nommer les choses, d'oser dire les choses, enfin, sur un plateau de théâtre. Voilà, de pas cacher, de pas vouloir minimiser quelque chose, de pas vouloir voiler une réalité parce qu'à un moment, elle est trop violente. Je parle d'excision aussi dans mon spectacle. Enfin, c'est comme si à un moment, on n'avait pas le droit de parler de ça. Il y a des femmes qui le vivent chaque année. Il y a 4 millions de filles, de fillettes chaque année qui se font exciser dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je pense que nous, c'est notre devoir d'entendre ça et d'en faire quelque chose.
La puissance de cette pièce, pour moi, est de nous confronter physiquement dans la salle à la violence du sexisme. Vous pourrez en faire l'expérience le 26 janvier prochain au théâtre de l'Agora à Évry et dans toute la France pour la tournée 18-19 du spectacle.
J'espère que cette pièce aura le succès qu'elle mérite. Marie-Pierre Rixin, je me tourne vers vous. En quelques mots, est-ce que vous auriez une réaction par rapport à tout ce que vous avez pu écouter lors de cette émission ?
Alors d'abord, je voulais vous féliciter pour d'avoir organisé cette émission entre deux figures qui finalement sont des symboles effectivement pour le féminisme. Un féminisme qui aujourd'hui ouvre une nouvelle page qu'on doit écrire toutes et tous ensemble et pour laquelle nous sommes en tout cas à l'Assemblée nationale tous mobilisés.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Pierre Rixin d'avoir accepté notre invitation.
Merci encore.
Merci au Centre culturel du Crous de nous avoir donné la possibilité de faire exister Simone et Beyoncé. Une pensée à JKL, Patrick, Sonia et Shaima qui ont participé à des ateliers avec nous mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Un énorme merci à Mélanie qui est à la régie et qui nous a accompagnés tout au long de ces ateliers. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Anything.